auditeurs, chers auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, ainsi que Chalon en Champagne. Bonjour, nous commençons aujourd'hui une nouvelle semaine après une série de 5 émissions sur les économies africaines. Nous allons aujourd'hui discuter de la situation internationale, et pas avec n'importe qui, avec Odile. Odile que je connais depuis longtemps, qui est une amie, avec laquelle j'ai déjà fait plusieurs émissions sur Mets de Résistance, que vous connaissez peut-être déjà, pour certains auditeurs qui nous sont fidèles et qui nous écoutent depuis 10 ans qu'on existe, depuis 10 ans que j'ai pris le relais, parce que Mets de Résistance existait auparavant. Et donc, Odile fait partie d'un groupement, enfin Odile c'est d'abord quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vie publique et à la vie la vie de la société qui l'entoure. Je parle aussi bien de la société au niveau local que national que international. Elle s'intéresse beaucoup au contexte international et à la géopolitique. Et ce n'est pas pour rien qu'elle fait partie des membres actifs, reconnus très utile de l'Institut Schiller en ce qui concerne la France. Et donc Odile, bonjour.
Bonjour, bonjour Noura, bonjour à vous.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Odile, qu'est-ce que c'est que l'Institut Schiller rapidement et quel rôle tu y joues ?
Alors, l'Institut Schiller, c'est une association internationale qui a été fondée en 1984 par Madame Helga Zepp-Larouche en référence à Friedrich Schiller, qui est un poète, un historien, un dramaturge, un très grand bonhomme allemand qui vivait au moment de la Révolution française et qui d'ailleurs a été fait citoyen d'honneur de la Révolution française, tellement il incarnait les idéaux de la Révolution. Il a été appelé d'ailleurs le poète de la liberté.
Et donc, c'est quelqu'un qu'on s'est vite empressé de faire taire, c'est-à-dire qu'on n'a pas entendu beaucoup parler de lui.
Alors, il a été très très connu à une certaine époque, y compris d'ailleurs en France, et c'est vraiment quelqu'un qui a eu un rôle, une reconnaissance à l'échelle internationale très grande. Et puis, effectivement, petit à petit, je pense que sans doute après la Première Guerre mondiale, peut-être, il a commencé à être totalement oublié, mais comme on a oublié plein d'autres, et c'est très 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 dommage, parce que c'est des gens qui ont à nous dire des choses aujourd'hui. Et l'Institut Schiller, bon, ça c'est un aspect important, mais l'Institut Schiller, c'est aussi tout l'esprit des non-alignés. Il faut savoir que dans les membres fondateurs de l'Institut Schiller, on a des gens qui ont été directement avec les non-alignés. Et c'est aussi l'idée qu'il doit y avoir entre l'Europe et les États-Unis, bon an, mal an, qu'il doit y avoir une vraie entente sur la base de ce qu'était la création des républiques. Parce que ça c'est un tout autre débat encore, mais il faut quand même savoir que les États-Unis au départ, comme la France, il y a eu la Révolution française et il y a eu la Révolution américaine. Et ces deux révolutions se sont faites contre l'ordre féodal, l'ordre oligarchique. La Révolution américaine, ça a été contre l'Empire britannique, et la Révolution française, après la Révolution américaine, soit dit en passant, elle s'est faite avec l'idée qu'on allait fonder une république, qu'on allait en finir avec l'ancien régime. Donc si vous voulez, il y a une communauté d'intérêts de ce point de vue-là entre les États-Unis dans le meilleur de ce qu'ils ont apporté historiquement et aujourd'hui qu'ils trahissent abondamment, soit dit en passant, et ce que la France et l'Europe a fait, parce que l'Europe a joué un rôle très 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 important dans cet élan pour fonder des républiques. Voilà, je pense que c'est pour essayer de donner un petit peu, et très naturellement, évidemment, nous, quand on voit, quelles que soient les latitudes, quels que soient les pays, tout pays qui est à la recherche de ce que représente l'esprit d'une république, de s'affranchir de l'émancipation, c'est évidemment des choses qu'on essaye de, avec lesquelles on est en symbiose, si on peut dire. Et puis surtout, c'est aussi l'idée que tout être humain humain, quel qu'il soit, a droit à, au développement, en tant qu'individu, mais aussi en tant que pays. Et quand on parle de développement, du progrès du développement, et aujourd'hui, c'est des mots qui même posent question à certains, mais pour nous, c'est très clair. Le développement, ça veut dire le développement économique, le développement culturel, ça veut dire l'émancipation, ça veut dire la liberté, et surtout les moyens que cela se fasse concrètement, soit en tant que pays, hein, en tant que nation, ou en tant qu'individu.
D'accord. Et que fait concrètement l'Institut Schiller, en fait ?
Alors, l'Institut Schiller, ben, il est très actif à l'échelle internationale. Alors, il y a le travail de l'Institut Schiller en tant que tel. Bon, on a fait beaucoup de conférences sur ces thèmes. Par exemple, il y a une chose sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment, c'est l'idée qu'il faut absolument, si on veut stopper l'espèce de fuite en avant guerrière que l'on voit un petit peu partout dans le monde, il faut absolument qu'il y ait une nouvelle architecture internationale de sécurité. Ça, c'est très important, par exemple, par rapport au conflit en Ukraine. C'est très important aussi, bien évidemment, dans un autre registre, hein, c'est un petit peu différent, mais c'est très important aussi pour ce qui se passe au Moyen-Orient.
Alors, bien évidemment. Parce que quand tu dis il faudrait une architecture internationale de sécurité, on a comme l'impression, parce que normalement c'est le rôle qui a été dévolu à l'ONU en 1945, on a presque l'impression que ce n'est plus le cas. Alors, quand on écoute.
Ah ben oui, ben, je crois qu'on a quand même des exemples sous le nez qui sont quand même très parlants. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce qui se passe en Ukraine? Bon, quand même, ça ne vient pas de nulle part. Comment est-ce qu'on en arrive à ce qui se passe à l'heure actuelle à Gaza? Enfin, c'est quand même quelque chose où on s'étonne que les instances internationales n'aient pas pris une position beaucoup plus tranchée.
Oui. Hein? On a l'impression, quelque part, qu'il n'y a plus de droit international. Enfin, il y en a moins, du moins. Enfin, du moins, il...
Non, moi, je dirais qu'à ce point-ci des choses, quand on s'assoit sur le droit international, comme on le fait de manière aussi caractérisée dans le cas, par exemple, de ce qui se passe à Gaza, on peut dire qu'effectivement, le droit international, plus personne n'y croit. Et plus personne n'y croit, ça veut dire que, quelque part, est-ce qu'il existe encore ?
Tout à fait. J'y réfléchissais il n'y a pas très longtemps à propos d'autres choses moins cruciales et moins importantes que la guerre et que la souveraineté des États et leur intégrité territoriale. Je dirais pas exactement de quelle thématique il s'agit, mais j'évoquais l'idée que il y ait comment dire un jour une primauté du droit international. Notamment en ce qui concerne les droits humains ou les droits de l'environnement ou des choses qui sont fondamentales pour permettre et pour éviter la barbarie, quoi, tout simplement, ou de détruire l'écosystème. Et ça n'existe pas, il n'y a aucun mécanisme qui a été mis en place de primauté du droit international. Tu sais, dans le droit national, il y a une hiérarchie des règles juridiques. Tu as la Constitution qui est au sommet. Et puis, normalement, tu as les traités. Alors, normalement, les traités doivent être conformes à la Constitution. Ou alors, on modifie la Constitution. Donc, tu as d'abord le droit constitutionnel, après, tu as les traités, et puis après, tu as les lois, et puis ensuite, tout ce qui est réglementaire. C'est très grave, tout ça. C'est vraiment très, enfin, et dans les traités, enfin, les traités, le règlement, ce qu'on appelle le droit conventionnel, c'est-à-dire le droit qui vient d'ailleurs. Donc, il y a les traités, et puis il y a le droit de l'Union européenne avec toute la réglementation européenne. Et c'est très grave parce que, en fait, il y a rien, il n'y a pas un droit international qui serait au-dessus. Alors que, déjà en 1948, ça aurait dû être pensé, lorsque a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il aurait dû y avoir une possibilité de faire s'imposer un droit, une primauté du droit international, c'est-à-dire la primauté d'un droit, c'est quand ce droit s'impose aux États nationaux, aux droits nationaux. Et là, ça n'existe pas. Et ça aurait dû être le cas, au moins pour des choses fondamentales, comme les droits de l'homme et le droit de l'environnement, qui se développe depuis les années 40.
Alors, moi, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas dire d'un point de vue de comment un juriste verrait ça. Ce que je peux dire, c'est que de ce que je comprends, en tout cas, de ce qui a été fait avec l'ONU, avec tous ces organismes, avec les différentes chartes auxquelles les pays comme la France et enfin tous les pays qui ont signé, qui ont adopté ces chartes, c'est-à-dire quand on s'y engage, on s'y engage. C'est-à-dire que le droit international, je crois que ça pose des problèmes si on dit qu'il y a une primauté du droit international. Là, c'est un autre type de problème parce que ça donne une... Qui dit le droit dit quelque part il faut pouvoir appliquer le droit. C'est bien toute la question à l'heure actuelle. Et qui applique le droit dans ce cas-là? Qui est-ce que au travers de quel organisme, au travers de quelle institution? Donc ça pose vraiment en filigrane, ça pose une question qui est quand même une question absolument fondamentale et qui est la question d'un gouvernement mondial. Et un gouvernement mondial, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut pas se leurrer là-dessus.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense que dans la pensée juridique contemporaine, il manque une réflexion sur les limites qu'on peut poser aux souverainetés des États. Attention, oui. Je dis quelque chose de très grave, mais aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est de parler de ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde, où notamment la souveraineté des États est effective, mais regarde à quoi ça conduit.
Est-ce qu'elle est effective? Elle n'est pas effective.
Au moins, celle des États-Unis est plus ou moins effective.
Alors, bonne question. Très, très.
Les Russes combattent pour conserver la leur.
Quelle souveraineté? Qui est-ce qui dirige les États-Unis? Qui fait vraiment le droit aux États-Unis?
On est d'accord.
On peut se poser la question, par exemple, ça amène des questions très concrètes. Est-ce qu'on peut accepter que des lobbies de grandes entreprises aillent démarcher tous les représentants du Congrès pour leur faire passer des lois? Aux États-Unis, comme dans plein d'autres États à l'heure actuelle, et c'est vrai aussi en France, mais aux États-Unis, par exemple, c'est très très spécifique, c'est que les représentants des congrès souvent se font élire parce que ils sont dans leur district dont ils sont responsables. Ça a peut-être un autre nom, en anglais, mais enfin on va dire leur circonscription pour être compréhensible. Ils vont se faire élire. Pourquoi? Parce que ils vont rendre des services aux gens qui sont là. Donc ils vont par exemple faire en sorte qu'il y ait telle industrie, notamment des industries de défense qui apportent de l'emploi dans tel endroit. Donc du coup, ils ont une clientèle qui est là, ils ont une clientèle qui vont les lire et eux vont rendre des services à cette clientèle. Donc à partir de là, c'est une corruption, faut appeler. Alors c'est quelque chose qui se pratique abondamment, c'est pas quelque chose de très nouveau, mais c'est quelque chose qui atteint quand même un stade extrêmement important. C'est vrai pour les États-Unis, je pense que ça se passe peut-être pas exactement de la même manière, mais qu'il y a le même genre de turpitude dans les autres pays, y compris en France. Donc ça, c'est déjà un certain niveau. Mais après, il y a l'Institut Schiller, je fais une petite digression. L'Institut Schiller, on fait beaucoup de conférences et on a souvent invité des gens qui sont des dissidents américains, y compris des gens d'ailleurs qui ont travaillé pour la CIA ou des agences de renseignement et qui sont des dissidents parce qu'ils sont absolument pas du tout d'accord avec la direction, compris les choses dans leur propre pays. Alors je pense à quelqu'un qui s'appelle Ray McGovern en particulier. Ils ont créé quelque chose qui s'appelle VIPS et Veteran, je m'en souviens plus maintenant. J'ai plus le. C'est VIPS en tout cas. Et donc c'est des anciens, sont des gens qui sont à la retraite. Maintenant ils sont plus actifs. Mais lui, il parle pour les États-Unis de quelque chose qu'il appelle le Micmac. Il dit ce qui gouverne les États-Unis. Eisenhower avait parlé du complexe militaro-industriel. Il dit oui, mais ça c'est dépassé. C'est dépassé. C'était vrai ce qu'il disait, mais c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est le complexe militaro-industriel. Médias, universités, institutions culturelles, c'est-à-dire, et où il décrit ça un petit peu comme un blob. Donc, c'est-à-dire que les institutions américaines, les institutions du gouvernement américain, en l'occurrence, sont sous le contrôle de ce qu'il appelle le Micmac. Hein, ça, c'est Ray McGovern qui l'appelle comme ça.
Millefeuille institutionnelle.
Millefeuille institutionnelle, oui, mais si vous voulez, des intérêts qui s'entrecroisent, c'est le public, c'est le privé, de plus en plus d'ailleurs le privé. Quand on voit, c'est pareil, ça c'est un autre sujet, mais quand on voit des entreprises comme BlackRock qui à l'heure actuelle se retrouvent dans des conseils d'administration de multinationales, de toutes sortes de multinationales, il y a des portefeuilles d'actions, de bons du trésor et tout ça dans des proportions mais absolument inouïes. On voit bien qu'il y a une connivence de facto entre l'État et ses intérêts privés. Et la chose est de plus en plus vraie pour un pays comme la France. Donc où est la souveraineté réelle d'un pays comme ça quand ce sont des intérêts privés qui de plus en plus pèsent sur les États ? Donc, on parle de souveraineté. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de souveraineté. Je ne crois pas que la France soit un État souverain. Ce point, c'est des choses. Elle a perdu les moyens. C'est pas simplement qu'elle a perdu. Je passe des États-Unis à la France, donc. Mais je pense que si on prend le cas de la France n'a plus les moyens de sa souveraineté parce que on met beaucoup en cause Macron. Mais il faut voir que c'est un processus qui a été enclenché depuis très longtemps, notamment avec depuis.
C'est Pompidou.
Ouais.
Mais bon.
Ouais. C'est, bon, j'allais dire Sarkozy, Hollande et Macron, hein, pour prendre ces trois-là en particulier qui sont emblématiques. Mais tous les moyens qui assurent effectivement cette souveraineté, ils ont été démantelés. Ça commence avec l'industrie. Si on a une économie, on n'a pas les moyens de cette économie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Hein, donc, on voit par exemple Macron à l'heure actuelle qui roule les mécaniques et qui parle « la France va faire ceci, va faire cela, ok ». Et tout le monde rigole parce qu'on sait très bien que lui a commencé par lui-même et ses prédécesseurs. Ben, on s'est dépouillé des moyens d'assumer cette souveraineté et ce qui va avec. On s'est dépouillé de ça. Donc, à l'échelle internationale, je pense que la bataille à l'heure actuelle, pour en revenir à ce qu'on disait sur la question du droit, c'est même plus les souverainetés des États. La plupart des États n'ont, en tout cas des États occidentaux, n'ont plus cette souveraineté parce qu'ils ont accepté d'être dans la main d'intérêts privés, de nouvelles féodalités financières que moi je n'appelle même pas une féodalité financière, j'appelle ça un fascisme financier.
Mais de toute façon, on sait bien que c'est toujours le capitalisme et les intérêts financiers et des structures des firmes qui ont conduit forcément au fascisme. Ça a toujours été le cas. Ce sont toujours eux qui ont financé l'arrivée au pouvoir des pouvoirs fascistes.
Oui.
Alors ça, c'est parce que c'est tout vrai. ça correspond à des cycles économiques. Il y a des cycles de croissance. Et puis quand on est dans un cycle descendant, on fait vite une guerre pour relancer l'économie et relancer faire se serrer la ceinture des populations et en freinant toutes les dépenses sociales qui peuvent être faites et en leur demandant de faire des sacrifices pour pouvoir produire des armes et faire des économies d'échelle et faire du bénéfice.
Oui, alors bon, moi je nuancerais ça quand même dans le sens où c'est plutôt une dérive parce qu'on peut très bien et on a en France des entreprises qui créent vraiment de la richesse, qui créent de l'emploi, qui contribuent positivement au pays et qui ne sont pas en train, qui ne font pas partie de cette oligarchie financière. Je dirais, l'oligarchie financière, c'est quand à un certain moment, on a ce qui est de la sphère de l'économique qui rentre et qui squatte, qui parasite en fait ce qui est la sphère du public et de l'État en tant que l'État qui représente le peuple souverain, qui est l'émanation du peuple souverain. On peut très bien avoir des entreprises qui jouent leur rôle, qui restent à leur place, qui contribuent à la vie du pays, qui apportent quelque chose de tout à fait bénéfique, même des grandes entreprises, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Ça suppose qu'il y a un État qui joue son rôle et qui décide qu'elles sont à leur place et qui ne va pas les laisser faire. Je reviens aux États-Unis, par exemple, un Roosevelt, à un certain moment, il a fait des lois anti-cartel, parce qu'il savait très bien que si on laissait se créer des entreprises tellement énormes qu'elles avaient un poids financier qu'on ne pouvait plus combattre, voilà, il y avait un rapport de force qui se crée. Et là, le rapport de force s'est créé, on l'a laissé s'installer, il y a eu des complicités pour le laisser s'installer pour des raisons X et Y, et aujourd'hui, effectivement, ça devient très compliqué de revenir là-dessus. Parce qu'on n'a plus les moyens, tout simplement. À une échelle beaucoup plus banale, beaucoup plus prosaïque, c'est par exemple les trafiquants de drogue qui roulent dans des grosses voitures avec une grosse cylindrée très très puissante, et derrière la police qui essaye de les rattraper avec des voitures qui fonctionnent pas ou qui sont pas suffisamment puissantes.
Certains, oui, tout à fait. Oui.
Si vous faire une analogie.
Oui, tu as raison. Qu'est-ce que j'allais dire ? D'ici quelques temps, certains iront sur d'autres planètes pour se réfugier et seront les seuls à pouvoir aller s'y réfugier.
Ouais, alors là, il faudra.
Ça va faire des phénomènes.
Ouais, non, mais là, là, d'accord, mais il faut du boulot, hein, c'est pas pour demain.
Tout à fait.
Faut être prêt à y laisser sa peau.
C'est pas encore le cas.
Bon. Oui.
Alors, ce que j'allais dire, c'est que tu as raison. Mais en fait, je pense qu'on est parti sur un mauvais paradigme qui doit dater des premiers traités, des premières grandes conférences internationales pour la paix qui ont eu lieu un peu avant la Première Guerre mondiale et puis après, notamment à Paris en 1920, c'est là qu'on commence à se partager le monde. Les États-Unis à l'époque n'étaient pas encore si importants que cela. Et en fait, à cette époque-là, on aurait pu raisonner différemment. Et je pense que ça aurait été bien que on parle des grandes structures, des grandes organisations internationales. À l'époque, il n'y avait que l'ASDN qui a été créée en 1920, comme faiseuse de droit et d'un droit qui pouvait s'imposer aux États. Ça, c'est très important. Finalement, toutes les constitutions de tous les États-nations évoquent, au moins dans leur préambule, donc j'allais dire, on aurait pu à l'époque imaginer un système qui impose pour certains droits imprescriptibles touchant à l'environnement, la nature, la faune, la flore et les êtres humains et leur bien-être, qu'ils s'imposent aux États. Et ce que je disais, c'est qu'après tout, dans toutes les constitutions de tous les États-nations, on parle des droits de l'homme, de toute façon, de manière plus ou moins exhaustive selon les États. C'est vrai que nous, on a notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui d'ailleurs a inspiré celle de 1948, qui est universelle, mais cela dit, il y a quand même de quoi faire. Enfin, tous les États, même s'ils ne sont pas aussi exhaustifs, parle des droits de l'homme. Et donc, rien que ça, bon, après, pour l'environnement, il n'y a pas beaucoup de constitutions qui ont intégré des principes à vocation à valeur environnementale dans leur constitution. Il y a nous, en France, dans notre préambule, c'est en train d'évoluer petit à petit. Et c'est vraiment dommage qu'on ait raté cette opportunité-là dans les années 20. Autour de 1920. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ne l'ait pas fait. Et aujourd'hui, j'allais dire, le droit international s'est beaucoup alimenté. Il y a le droit de l'ONU, avec toutes les grandes déclarations qui sont rattachées à l'Organisation des Nations Unies. Et puis il y a le droit, par exemple, je pense à l'UNESCO. L'UNESCO est faiseur de droit. Après, nous, il y a les institutions de l'Union européenne, mais il y a aussi la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, qui elle aussi est faiseuse de droit. Elle a d'ailleurs sa propre cour, la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec les institutions européennes. Tout ça, ça fait aussi penser à l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Pour moi, ce sont des institutions qui datent depuis longtemps, qui sont faiseuses de droit, qui ont leur propre jurisprudence et sur lesquelles auxquelles on devrait pouvoir faire confiance pour faire évoluer la société internationale et les droits des États.
Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas juriste, mais ce que ça me... Quand on parle de comment dire, de ces entités faiseuses de droit, j'avoue que ça me chatouille l'oreille, je veux dire. Parce que tout de suite, je me dis, ok, très bien, faiseuses de droit, mais faiseuses de droit, au nom de qui? Au nom de quoi? Est-ce que ces institutions nous représentent? C'est-à-dire quand même, en France, on a une constitution. Et la constitution, elle est faite par, comment dire, au travers d'un processus qui est reconnu par tout le monde et qui, où on a l'accord du peuple souverain. En France, c'est le peuple souverain quand même qui normalement dirige, entre guillemets, au travers de ses représentants, on est bien d'accord.
Hein? Tout à fait. Mais voilà. La majorité de ces institutions-là dont je parle, beaucoup sont quand même plus ou moins s'organisent à partir de la société civile.
Oui, mais enfin la société civile, elle représente qui?
Elle est souvent représentée par des ONG, des organisations non gouvernementales.
Eh ben oui, ben moi ça me pose problème.
Ah oui, ça te pose problème. Mais oui, mais on peut pas faire tout. Ah oui, 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 tu voudrais qu'il y ait un vote universel.
Ah ben oui, parce que les ONG, d'une part, ben elles sortent d'où? Qui est-ce qui les finance? On sait très bien que beaucoup d'ONG sont financées par des agences qui ont leur propre agenda, quand ce ne sont pas des agences qui sont directement liées à des services de renseignement de tel ou tel pays. Mm-hmm. Hein, ça, c'est totalement établi. Donc, au nom de quoi est-ce que des ONG, sur une base totalement fumeuse, édicteraient le droit, feraient le droit? Je veux dire, le droit, c'est quand même quelque chose, c'est vachement... Enfin, celui qui dit le droit, celui qui dicte le droit, mais il dicte ce que va être la société. Donc, au nom de quoi est-ce que tel ou tel... ONG ou organisme ou je sais pas, institution dont on ne sait pas d'où elles sont, on ne sait pas qui elles représentent, on ne sait rien, serait en train de dire, décider de ce que nous allons faire, mais au nom de quoi? Au nom de quel principe?
Le problème, c'est que tu dis nous, mais il n'y a pas de fraternité entre les êtres humains. Tout se passerait très bien si les gens... Mais il n'y a pas de fraternité, il y a des intérêts divergents, chacun essaye de tirer un peu la couverture à soi. Certes, il y a des groupes collectifs qui rêvent de fraternité et qui veulent faire des choses ensemble, mais là, c'est pareil, ils peuvent... Enfin, tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Dis-nous, mais quel nous?
Mais nous, faire nation, par exemple, c'est justement de bâtir cette fraternité. Penser que c'est un truc qui existe comme ça par l'opération du Saint-Esprit, si je puis dire, c'est totalement... C'est très naïf.
Mais alors, justement,
une fraternité, on la bâtit, on crée les conditions pour, ça se fait pas, c'est quelque chose de difficile.
Oui, mais avec, ça ne peut pas se faire et s'imposer sans qu'il y ait une coercition légitime d'une institution quelconque. C'est important, il faut que ça s'institutionnalise, qu'il y ait à la fois la possibilité de l'usage du droit, mais aussi celui et la légitimité du pouvoir, je reprends Machiavel, mais aussi, il faut bien le dire, celui de la force. C'est ça le monopole de la coercition légitime, c'est pouvoir user de la force de manière légitime, oui. Puisque, voilà.
Alors là, pour le coup, je dirais, moi, je vois une grosse contradiction là-dedans. C'est-à-dire, d'un côté, on parle de fraternité, la fraternité par la force, ça n'existe pas.
C'est pas possible.
Oui, mais justement, tout à l'heure, je te disais, mais quel nous? Quel nous? C'est qu'il y a toujours des intérêts divergents. C'est pour ça qu'il y a la coercition, pour que le nous reste, pour qu'il reste soudé.
Il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le nous. Le nous, évidemment, c'est très vague. Ça veut dire 10 000 choses. Le nous, ça peut être nous, l'humanité. Ça peut être nous, les Français. Oui. Ça peut être nous, dans notre famille. Ça peut être 10 000 choses différentes. Donc là, quand on parle de nous, je parle en particulier par exemple de la France, on peut parler aussi de l'humanité, c'est les deux choses. Quand on a parlé de nous, là dans notre discussion, grosso modo, tantôt on a parlé de la France et tantôt on a parlé de l'humanité, en gros. Voilà. Et donc, l'humanité, oui, si on parle de l'humanité, il y a un dessein commun de l'humanité. Et je pense d'ailleurs que aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, ce qui est en jeu, c'est justement le dessein commun de l'humanité. Est-ce qu'on est capable de voir qu'il y a entre des divergences extrême, qu'il y a un intérêt commun, et deux, alors là je vais parler de philosophie là, carrément, allez,
ah, je t'écoute.
On se plonge,
ouais,
allez,
je t'écoute.
On y va.
Ça va être intéressant. Et après on s'écoutera Beethoven.
Voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Nicolas de Cuse. C'est un bonhomme qui a vécu au XVe siècle, qui a joué un rôle fondamental. C'était un cardinal, mais c'était aussi un scientifique et c'était surtout un grand penseur. Et ce bonhomme-là, il a défini quelque chose qui s'appelle la coïncidence des opposés. Et donc il y a toute une discussion extrêmement profonde qu'il a là-dessus. Mais en gros, il dit il y a effectivement des opposés. Il y a tous des choses qui nous différencient. Mais à un certain moment, il faut que l'on puisse passer à une étape au-dessus, en quelque sorte, où on trouve un terrain d'entente au-dessus. Et il y a quelqu'un en France qui s'appelle Jean Bodin. C'est un très grand économiste français qui aujourd'hui est malheureusement, comme tant d'autres, totalement inconnu du grand public, et c'est très dommage. Il a écrit les 6 livres de la République. C'est lui qui a dit, on le connaît notamment parce qu'il a dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est pas le pétrole, c'est pas le diamant, c'est pas l'or, c'est pas, il n'y a de richesse que d'homme. C'est la seule richesse véritable. Et donc lui, il explique comment on doit faire un accord de discord. C'est un principe très musical d'ailleurs. Pourquoi? Parce que effectivement, le monde est fait de discord. On n'est pas les mêmes. Il y a plein de choses qui nous différencient. On n'est pas d'accord sur ceci, on n'est pas d'accord sur cela. Et en même temps, tout nous rapproche. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le terrain d'entente. Et ok, c'est pas facile, mais généralement, faut monter au-dessus, faut monter d'un cran, faut surtout pas descendre. Il faut monter. D'où la nécessité d'avoir une culture qui ennoblisse les gens, parce que c'est à ce niveau-là que les gens peuvent commencer à s'entendre, à se mettre d'accord, à trouver les terrains d'entente. Et c'est pour ça, soit dit, et là je vais peut-être faire passer du coq à l'âne, peut-être que ce sera perçu comme ça, mais quand par exemple les Chinois parle de, quand Xi Jinping parle de gagnant-gagnant, qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais, il n'est pas naïf non plus, Xi Jinping. Hein, il n'est pas né de la dernière pluie. Donc il sait très bien qu'il y a des discords très importants entre les nations, mais il y a un terrain sur lequel on doit pouvoir s'entendre, où on y gagne et où chacun y gagne. Alors il y a une vision aussi très confucienne, dans le monde asiatique il y a aussi une vision, la même conception des choses qui est abordée sous un angle différent, et je pense, soit dit en passant, que dans toutes les cultures, par exemple les Sud-Africains, enfin c'est peut-être pas que les Sud-Africains d'ailleurs, ils parlent de Ubuntu. C'est un petit peu, quelque part, exprimé d'une manière différente. C'est une idée qui va dans la même direction. Je n'irais pas dire que ça se superpose forcément, mais en tout cas, ça va dans la même direction.
En fait, ils ont fait du Ernest Renan sans le savoir.
Ça, c'est possible.
Un projet de nation.
Oui, mais faire une nation, c'est ça, notamment, c'est de partir de toutes ces divergences et de se retrouver sur des principes fondamentaux dans lesquels chacun se reconnaisse.
Mais tout ça, ça ne pourrait pas fonctionner si l'économique, on occulte la chose économique, et Aristote le disait très bien, il l'a très bien montré dans l'économique. C'est lui qui dit que, contrairement à son confrère Platon, qui vivait à peu près à la même époque, qui était un petit peu plus âgé, que en fait le pouvoir c'est pour tout le monde, mais que la démocratie c'est pas quelque chose de bien. Il tenait déjà à l'époque le discours de Tocqueville, qui pensait que la démocratie, qui avait observé ce qui se passait en Amérique et qui disait que la démocratie c'était pas toujours ça apportait pas toujours le bonheur à tout le monde. Et il est contre Platon, qui dit qu'il faut choisir un philosophe roi qui gouvernerait et qui aurait eu un traitement spécifique, qui aurait été valorisé plus que d'autres, et qui aurait été, qui aurait eu un traitement spécial, qui aurait été valorisé et puis qui aurait vécu sans, en ayant les moyens, enfin en ayant tout ce qu'il voulait, si tu veux, et en ayant la meilleure éducation possible, et sans problème financier ni matériel, pour pouvoir gouverner la société. Et Aristote est contre ça, mais il est contre la démocratie aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit, Aristote ? C'est quelqu'un qui connaît très bien la nature humaine. Il nous dit, en fait, il nous dit, c'est l'aristocratie qui doit gouverner. Pourquoi ? Parce que les aristocrates, ce sont pas des gens, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de travailler, pour qu'ils peuvent penser, ils peuvent évoluer, ils peuvent, ils ont la possibilité de penser ce qu'il faut pour que la société fonctionne correctement. Et également, comme ils ne manquent pas de moyens matériels, forcément, ils sont spirituels, on va dire entre guillemets, enfin je vais choquer les gens, mais on sait bien par expérience qu'on ne peut pas être spirituel si on manque de quelque chose. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, si,
Gandhi ne serait pas d'accord.
Oui, mais enfin bon, Gandhi c'était une autre époque, et si on demande à tout le monde, à tous les citoyens français de pratiquer le jeûne et la cèse pour avoir un système politique qui fonctionne correctement et qui est vertueux, non, je ne pense pas que ça fonctionnera bien.
Non, mais je pense
donc
que ça ne fonctionnera
pas. Ça c'est quelque chose qu'on peut se demander à soi-même, mais on ne peut pas le demander au collectif.
Non, c'est, de toute façon, voilà. C'est un choix. Mais honnêtement, enfin je, comment dire, bon, je pense que la vision de Aristote est totalement fausse.
Attention, parce que ça peut paraître choquant ce que je veux dire, parce que cette vision de Aristote, on a bien vu ce que ça donnait à la fin de l'Ancien Régime, au moment où, pendant la Révolution française, on guillotine tous les aristocrates, justement, puisqu'ils jouissaient de privilèges par rapport au reste de la population, qui, elle, était obligée de travailler pour vivre et qui, donc, et qui manquait.
Oui.
Mais Aristote, qui a écrit un autre livre qui s'appelle L'économique, nous montre que, en mettant en place un système économique qui valorise chacun et qui permet que chacun puisse disposer librement de son humanité sans manquer de moyens matériels, c'est-à-dire sans être obligé de s'aliéner par le travail pour pouvoir se pourvoir, répondre à ses besoins, fondamentaux, des besoins primaires jusqu'aux besoins tertiaires, sur la pyramide de Maslow, dans la hiérarchie des besoins économiques, eh bien, on aboutira à un système qui permet l'aristocratisation de la société tout entière. En règle générale, qu'est-ce qui motive nos troupes en France quand on se mêle de politique ? Qu'est-ce que tu vois dans les revendications ? C'est soit hausse des salaires, ou bien moins d'impôts, ou bien augmentation des pensions de retraite et baisse de l'âge de départ à la retraite. Ce sont toujours, à chaque fois qu'on se mêle de politique, et en règle générale, dans la majorité des cas, quand on vote et quand il y a des élections, bon, c'est vrai qu'on parle aussi de sécurité, mais ce qui revient en premier, c'est toujours des contestations ou des revendications économiques. On est bien d'accord.
Alors,
par l'économique, on peut régler la situation et faire de chacun des aristocrates.
Oula.
Pour que les gens, certes, puissent travailler, mais travailler dans de bonnes conditions et aller au travail par plaisir, mais également pour qu'ils puissent se développer, avoir des biens culturels. Tu comprends, c'est très important, ça.
Alors, déjà, bon, ce que tu dis, ce que les gens veulent, ok, très bien, mais qui est-ce qui dit ça ? Parce que moi, je sais, quand je parle avec les gens, bon, c'est sûr que la question d'avoir un bon salaire et tout ça, c'est important. C'est sûr. Le départ à la retraite aussi, c'est important. Mais ça, c'est les médias. C'est les médias qui disent que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Par contre, quand on parle avec les gens, il y a un peu plus. C'est un peu plus large. Le spectre est quand même plus large. Déjà, la plupart des gens, quelque part, ce qu'ils veulent, ce qu'ils expriment, c'est pas toujours exprimé d'ailleurs de manière très claire, mais quand même, ça ressort. C'est une considération de ce qu'ils sont. C'est le respect, déjà.
Mais cette considération-là, elle peut commencer aussi par un bon salaire et une reconnaissance sociale. C'est très important.
Oui, mais c'est bien sûr, mais certainement. Mais je serais tentée de dire, ce n'est pas que ça. Et heureusement, d'ailleurs, soit dit en passant, que ce n'est pas que ça.
Mais si les gens peuvent se permettre de moins travailler pour voir à leurs besoins, à ce moment-là, ils développeront davantage de relations sociales qui leur permettront, comme tu le dis, d'avoir plus de relations humaines et d'être valorisés.
Pour aller jusqu'au bout, parce que je ne veux absolument pas dire, c'est absolument pas ce que je dis, que le fait d'avoir un salaire, de pouvoir vivre de son travail correctement, n'est pas important. Hein, qu'on ne se méprenne surtout pas sur ce que je suis en train de dire.
Mais ça nuit quand même aux relations sociales que d'être obligé de travailler tout le temps.
Alors, et de, voilà. Juste pour terminer, parce que ça pose la question de la nature du travail. C'est quoi la nature du travail ? Aujourd'hui, un des grands problèmes que tu as, c'est que la plupart des gens, de toute façon, ils vont au travail à reculons parce qu'ils sont dans un travail où les conditions de travail sont extrêmement, elles peuvent être dégradantes dans certains cas, elles peuvent être brutales. Les gens sont de plus en plus assignés à des tâches souvent répétitives. Donc il n'y a pas tant de gens que ça qui ont un travail dont ils sont vraiment satisfaits. Et tu peux parler avec plein de gens, tu vois généralement ce qu'ils disent, c'est assez édifiant. Donc il y a qu'est-ce qu'on entend par travail ? Travailler, c'est bien quand c'est un travail qui justement quelque part créateur, quand c'est un travail machine, quand c'est un travail dégradant ou un travail répétitif ou un travail où les gens les gens n'ont pas envie de le faire, et des fois c'est exagéré, des fois c'est du caprice, il faut en être conscient, ça existe, mais des fois très très souvent c'est quand même justifié, il faut en être conscient aussi. Donc le problème, à mon avis, à ce niveau, il n'est pas tout à fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas simplement des questions matérielles. Il y a une question de quelle société, dans quelle société on s'inscrit. Et je pense que l'autre chose qu'on ne traite jamais, parce que la question de Aristote.
Pardon, si je peux me permettre. Oui. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que la question est d'abord matérialiste. Je suis comme Karl Marx en disant que en ayant une économie qui est saine, une économie vraiment libérale de petites et moyennes entreprises, où tout un chacun, et non pas une économie qui ne garantit que les privilèges et les intérêts des grandes entreprises, qu'on peut avoir une société qui est saine. Ça doit commencer par ça. Vivre de son travail et pouvoir s'enrichir, c'est très important, et ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Alors, c'est très important dans l'esprit humain. Oui. L'esprit humain est fait pour se développer, pour développer ses muscles, pour développer son cerveau, mais également pour développer autour de lui, comme tout mammifère et comme n'importe quel être vivant sur Terre, quelque chose qui va le protéger. Ça va être une maison, pour l'araignée c'est la toile d'araignée, etc. Pour les fourmis c'est la fourmilière. Et l'être humain est comme ça. Tout être vivant doit se protéger. On ne peut pas, si il n'y a pas de propriété privée. Et la possibilité pour chacun de se protéger et d'avoir des biens matériels et d'évoluer par rapport à ça, et un patrimoine, eh ben, ça ne sera pas possible que les gens se s'entendent entre eux. Je pense que c'est très très important. On est dans un système économique qui ne permet pas ça.
Ah ben ça c'est sûr qu'il ne le permet pas, vu que c'est un système qui pompe la richesse au bénéfice de... C'est un mécanisme qui a été patiemment mis en place pour pomper la richesse et la faire aller, la canaliser vers un certain nombre de gens. Alors c'est sûr, c'est vrai que le fait que dans une société que les gens se sentent en sécurité, c'est absolument, voilà. Si tu peux pas, mais moi je le vois pas du tout du point de vue.
La sécurité affective, c'est fondamental. Je suis d'accord avec toi, c'est très important. Mais la sécurité matérielle, c'est aussi très important.
Oui. Mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que la question sous-jacente, la sécurité, c'est aussi pour pouvoir appréhender l'avenir. Et je reviens sur deux choses. Un, parce que Karl Marx, autant que je me souvienne, alors là, j'avoue que j'ai pas les choses très précises en tête, mais justement,
il est matérialiste.
Oui, il est matérialiste, et justement, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il rate le coche sur quelque chose qui est absolument fondamental, c'est qu'il ne prend pas en compte la création humaine. Parce qu'il y a, je ne sais plus, c'est...
En fait, Karl Marx se contentait simplement de décrire la société telle qu'elle était à son époque. Et quand je dis les matérialistes, c'est qu'ils montrent que le paradigme économique régit toutes les relations humaines.
Oui,
alors... Et les détermine. Oui. Mais à côté de lui, il avait quand même son meilleur ami qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a écrit avec Karl Marx, j'ai un trou de mémoire, qui lui venait d'une famille aristocrate, et donc il était très bien placé. Karl Marx, il évoluait aussi dans un milieu culturel. Bon, il était pauvre, mais il avait un bac bagage culturel très important. Et donc, il évoluait dans une société qui était quand même assez culturellement élevé et donc de privilégié. Et c'est Engels, pardon, son ami, qui lui venait d'une famille aristocrate et qui était riche. Et il voyait bien que la créativité n'existait que lorsque on n'avait pas à travailler pour manger. Et uniquement pour manger, je veux dire.
Oui. Oui, bien sûr. Oui. C'est, voilà, mais tout ne se résume pas à ça. Tout simplement.
Oui.
Voilà.
Mais il ne faut pas être trop utopique non plus, je pense que c'est quand même fondamental.
Mais on est clair là-dessus.
Voilà.
On est clair
là-dessus, ouais.
C'est simplement ce que je veux dire, ça, simplement. Je reviens à ce que disait Jean Bodin. Quand Jean Bodin dit il n'y a de richesse que d'homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'être humain. Qu'il y a quelque chose qui dépasse les simples choses matérielles. Et cette chose de spécifique qui existe dans l'être humain, c'est sa capacité de créer. Parce que l'être humain, tu peux le mettre dans un environnement où il n'y a rien, il va changer cet environnement. Il a la capacité de le changer. Un animal, que je sache, il y a beaucoup de recherches éthologiques qui sont faites aujourd'hui, les animaux, ils n'ont pas la capacité de changer leur environnement. Donc l'être humain, il peut créer des choses, il peut concevoir des choses, il peut se projeter dans l'avenir, il peut se projeter dans le passé aussi. Donc ça, et là, je n'effleure que la surface des choses. Donc quand Jean Bodin dit ça, il parle de ça. Et Jean Bodin, je rappelle, c'est un économiste, comme Marx, mais il ne prend pas l'économie sur le même plan. Alors, ce n'est pas la même époque non plus, on est bien d'accord. Hein, donc, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a jeté les bases, qui allait mûrir et qui allait aboutir à ce qui a fait la République française. Il faut bien l'avoir à l'esprit, ça. Et la République française, il y a dedans... Quand, par exemple, le Conseil national de la résistance fait son programme, il attaque les oligarchies financières explicitement, mais quelque part, il prend à cœur, il attrape cette question économique pour la remettre dans un moule qui correspond à l'histoire qui a été celle de la fondation de la République française et de le projeter dans l'avenir. Donc il a une vision de ce point de vue-là, c'est pas Marx en tant que tel, il va puiser dans autre chose qui, à mon avis, va plus loin parce qu'il pose cette question de l'esprit humain, de la capacité humaine de créer, qui est quelque chose de plus.
Et ce qui n'est pas contradictoire avec Karl Marx, qui se contentait de décrire la société de son époque, où on voyait que les ouvriers étaient complètement aliénés par le travail, ils travaillaient 12 heures par jour, et même davantage. Quand ils avaient leur salaire, les hommes allaient le dépenser en buvant, et les femmes et les enfants crevaient de faim, et les enfants travaillaient aussi. Donc ce qui il montre un peu la même chose, finalement. Il faut donner la possibilité à l'être humain d'être créatif. Si on l'a, l'esclavage, c'est le principe du camp de concentration aussi, quoi.
Je pense qu'ils partent d'un point de vue différent. Il faudrait, c'est un sujet qui mériterait une émission.
Mais je serais entièrement d'accord avec toi. Voilà, notamment, c'est très important la créativité, parce que tu sais que maintenant, dans les théories économiques, pour calculer la manière dont on crée les richesses économiques et la valeur ajoutée, on tient compte dans ce qu'on appelle la fonction de production. On tient compte de la créativité et du ce qu'on appelle le capital humain.
Oui.
Et la capacité d'innovation.
Oui. Oui.
Tout un poème, mais c'est vrai que tu as raison, il faudrait qu'on en fasse une émission à part entière. Odile, toutes les deux, quand on discute, c'est super intéressant et j'espère que nos auditeurs en profitent parce que je pense que l'émission va être intéressante. Mais au départ, on était quand même parti pour évoquer le retour de l'économie de guerre auquel on assiste en ce moment. Donc, ne soyez pas trop déçus, chers auditeurs, nous allons en reparler, on fera une autre émission dessus. Mais si on peut quand même revenir sur ce sujet-là très rapidement, alors ce sujet-là, il peut se raccrocher à ce qu'on était en train de dire.
Exactement, parce que justement, voilà. Justement c'est la question, c'est-à-dire qu'il y a économie et économie. Tout n'est pas égal d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on met de l'argent pour fabriquer des bombes, c'est pas la même chose que quand on met de l'argent pour fabriquer un hôpital. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, Je rappelle quand même que Macron, dès 2022, au salon Eurosatory, qui est le salon annuel où il présente des armements et tout ça, il avait parlé, il disait on entre dans une économie de guerre. Et c'est très vague ce que ça veut dire, une économie de guerre.
En 2022, hein, on est d'accord. Ça, et il me semble que ça a échappé à beaucoup de monde. Beaucoup ne l'ont pas entendu. Alors que, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, en 2017, alors que Emmanuel Macron venait d'être élu, il y avait eu une polémique autour du chef d'état-major de l'époque qui s'appelait c'est celui qui a écrit Servir, Philippe de Villiers, qui avait montré, d'ailleurs j'ai lu son livre Servir qui était très intéressant, où il montrait que notre armée à l'époque manquait beaucoup de moyens, aussi bien sur le plan matériel que social, hein, il y avait des familles qui souffraient à cause des déplacements, etc. Et donc il avait chiffré, il fallait je crois plus de 50 millions d'euros pour combler les manques. Et il parlait également de notre flotte navale qui était dans un état. Et Emmanuel Macron ne l'avait pas limogé, mais il l'avait publiquement contredit. Et Philippe Le Villiers était parti. Il avait démissionné. C'est là qu'après, il a été remplacé par Thierry Brucard. Après, il y a l'Union européenne qui a pris le relais avec cette politique qui exigeait que chaque État membre augmente chaque année ses dépenses d'armement d'une valeur de 2% de son PIB pendant un certain nombre d'années, parce qu'on avait jugé que l'effort de guerre européen n'était pas suffisant. Mais tout ça, ça restait encore minime. Et puis, depuis le conflit ukrainien, c'est allé en désescalade. Ça n'a pas arrêté. Il y a eu cette déclaration d'Emmanuel Macron en 2022, je suppose, peu après le début du conflit. Et puis, toute la politique qu'on mène aujourd'hui, qui est une politique d'armement, puisque notre état-major français s'est mis à dépenser de l'argent. Moi, j'ai en grand thèse, on voyait des tas de tanks sur les trains l'année dernière.
Il y a deux choses là encore, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le fait qu'il y a une situation où on a coupé pendant plusieurs décennies, chaque fois qu'il y avait un petit peu à faire des économies ou à privilégier d'autres secteurs, c'est vrai qu'on mettait de plus en plus la défense à l'os d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'il y a eu un vrai problème. Et de ce point de vue-là, Philippe de Villiers a pointé du doigt quelque chose qui était réel. Il y a une très grosse différence entre remettre en état un secteur qui est important, qui est celui de la défense, de faire en sorte qu'il soit fonctionnel, qu'il y ait des outils qui fonctionnent, des appareils qui fonctionnent, que les gens soient formés au niveau nécessaire, qu'éventuellement qu'on puisse avoir d'autres personnels, parce que je rappelle qu'en France, maintenant il n'y a plus de conscription, donc c'est une armée professionnelle, mais les professionnels ça se forme, ça se paye, etc., etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y avait un problème. Par ailleurs, de plus en plus, nous, on a eu une armée qui était une armée de projection, c'est-à-dire une armée qui est envoyée dans toutes sortes d'aventures néocoloniales, de ci, de là dans le monde, n'est-ce pas ? Bref, ça c'est encore une question d'orientation politique. Mais depuis la guerre en Ukraine, et spécifiquement, je dirais depuis... j'ai pas de date précise, parce que finalement, je pense que ça a commencé quand même assez tôt. C'est-à-dire, il y a eu cette idée, l'effort de soutien à l'Ukraine, où les pays européens, les pays occidentaux ont pris part dans un conflit qui quelque part c'est un conflit comme on l'a dit, c'est une guerre de l'OTAN de manière interposée, c'est une guerre de l'OTAN menée contre la Russie par Ukraine interposée. Je crois que c'est Rubio
qui l'a dit tout à fait. Mais c'est également un prétexte pour faire fonctionner les industries de l'armement.
Alors ça, c'est venu, je dirais, après. C'est dans une deuxième étape. C'est-à-dire que, de toute façon, là, tout le monde est d'accord, en dépit de la propagande absolument hallucinante qu'il y a sur les ondes en France, tout le monde... tout le monde est d'accord que de toute façon l'Ukraine a perdu. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'aujourd'hui, en plus, il y a l'élection de Trump. Trump, lui, cette guerre-là, ça, il n'en veut pas. Il veut terminer cette guerre, il l'a dit, et il essaye de le faire. Et
là, ils vont se rencontrer
encore la semaine prochaine. Il va y avoir une rencontre ou un coup de téléphone, je pense, plus précisément, entre Trump et Poutine. Et donc, Poutine a dit, OK... vous les Européens, c'est vous qui allez devoir assumer votre propre défense. Nous, on ne peut plus pour vous.
Très bien. Écoute, Odile, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je te propose quelque chose. C'est que le sujet de notre prochaine émission porte là-dessus.
D'accord. Très bien.
Porte justement ces rapports entre États, cette nouvelle géopolitique qui se dessine progressivement, essayer de voir ce que ça pourrait donner. Voilà.
Tout à fait.
Et il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais comme tu souhaitais mettre Beethoven,
c'est ça ?
Ah ben, laquelle de Beethoven ?
Ah ben, il y a une très belle symphonie qui s'appelle la symphonie héroïque.
Et la 9 ?
Non, ça c'est la troisième.
La 3, d'accord.
Qui, je pense, correspond un petit peu à l'esprit des temps, du temps. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver cet héroïsme pour sortir de cet engrenage fatal et pour aller vers la paix, pour aller vers un futur où on pense, où on bâtisse vraiment quelque chose de valable.
Donc sortir de l'héroïsme, du paradigme du héros.
Enfin, devenir des héros des vrais héros de la paix,
devenir les héros contre cette oligarchie financière. D'accord. On a besoin de héros d'un nouveau genre.
En quelque sorte, c'est sortir de l'héroïsme d'un seul pour favoriser l'héroïsme de chacun. Beethoven, la troisième symphonie. Je vous laisse, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Bientôt, on traitera à nouveau de l'économie de guerre avec Odile de manière plus approfondie. Odile, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci Noura et merci à tous les auditeurs.
Et à très bientôt, je vous laisse avec Beethoven. Au revoir.